BFM Business et 01 TV présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver, comme chaque week-end, vous le savez, à la fois sur 01 TV, sur la chaîne YouTube de 01 TV, sur 01net.com et sur BFM Business le dimanche matin pour De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech du week-end. Avec tout à l'heure Nicolas Lelouch, notre expert smartphone à 01net qui viendra vous donner les meilleurs smartphones du moment, à la fois dans un segment vraiment abordable, 200 euros, 300 euros, 500 euros et le top du top en matière de smartphone du moment. Vous verrez, toutes les marques seront représentées. Ce sera notre deuxième partie où on prendra le temps avec Nicolas. Je vous rappelle aussi que vous pouvez réagir avec le hashtag DQJMM sur Twitter, nous suivre sur Facebook, bien sûr. Merci d'être là et c'est parti donc pour De quoi je me mêle. Et De quoi je me mêle pour sa première partie revient sur l'actu chaude du moment, l'actu de ces derniers jours, c'est le club de la presse IT et c'est avec Raphaël Grabi cette semaine. Salut Raphaël.
Salut François.
Ravi de te retrouver, Raphaël, journaliste, vous le savez, à BFM Tech, et l'Express est dignement représenté aussi avec Emmanuel Paquette.
Bonjour François.
Bonjour Emmanuel. On va commenter l'actu donc de cette semaine et on va commencer par Apple qui s'apprête à dégainer de manière assez surprenante, hein, c'était pas trop prévu, une keynote là qui va arriver dans quelques jours, Raphaël.
C'est vrai que c'est une keynote, on sait pas franchement ce qu'il y aura, je pense qu'il y aura quelques surprises, sincèrement, parce que, alors, il y a un acquis, ce sera sur les iPads, donc je rappelle, hein, Apple a officialisé la keynote, donc mardi 20 avril, hein, ça doit être 19h, hein, j'ai plus en tête, je pense que
oui, c'est ça, 19h, hein, à suivre 19h, sur 01 TV comme d'habitude. Hein.
Et a priori, il y aura quand même quelques produits. Alors, selon les rumeurs, en fait, ce sera une keynote assez, on va dire, rempli en annonce. Voilà. Mmh. Apparemment, ils ne vont pas être radins en annonce. Il devrait y avoir donc quelques nouveautés. Alors, évidemment, ce qui est attendu, il y a une sorte de consensus sur la rumeur sur les nouveaux iPad Pro avec deux nouveautés. Alors, pas grand-chose au niveau esthétique. Hein. On va retrouver ce qui fait l'iPad Pro, le succès de l'iPad Pro, c'est-à-dire, alors, depuis l'année dernière, le double module caméra.
Bien sûr, le LiDAR aussi.
Qui le LiDAR. Mmh. Moi, ce que j'adore, c'est le Magic Keyboard, l'accessoire. Alors, ce sera vendu en plus, évidemment. Hein. C'est 150 euros, je crois. Mais ce qui fait qu'à l'usage, on peut en faire un
150,
vrai...
150, tu dis, je crois que c'est beaucoup plus cher. Attends, tu sais quoi, pendant que tu parles, je vais aller voir. Le Magic Keyboard, je pense qu'on peut avoir une super...
Ah, oui, alors, peut-être 250... Non, mais c'est
attends,
pas plus
on va
de 200
voir.
Euros.
On va voir, vas-y, c'est pas grave.
Pour moi, c'est entre 150 et 200, mais je te laisse regarder.
339, monsieur.
339.
ouais. Exactement.
Bon, voilà. Mais en tout cas, c'est un bon accessoire qui coûte assez cher, mais c'est un très bon accessoire,
oui,
pour l'avoir testé quand même.
Exactement. Et ça transforme en fait l'iPad Pro presque en machine
dans l'usage,
de travail.
Alors,
hein.
Évidemment, ça reste de l'iPadOS, mais ça transforme quand même l'usage. Et les deux nouveautés, alors évidemment, la puissance, hein, on va avoir une nouvelle puce, la puce probablement A14X, c'est-à-dire la A14 de l'iPhone 12, mais propulsé façon iPad, c'est-à-dire avec peut-être plus de cœur, plus de puissance, voilà, un peu plus costaud, qui devrait finalement, d'ailleurs, ressembler un peu à ce que propose la puce M1, quelque part. Hein. C'est un peu la cousine germaine, probablement, de la puce M1. Et la grosse nouveauté, ce sera au niveau de l'affichage, avec l'arrivée chez Apple sur iPad du mini LED. Alors, le mini LED, du coup, ce ne serait pas de l'OLED, mais... On se rapproche
puisqu'on
reste sur la techno LCD, mais on reste sur une techno proche du LCD, mais pas de l'OLED non plus. On devrait quand même gagner en contraste, en luminosité. Ce qui fait aussi le point fort de l'OLED qu'on retrouve sur le mini LED, c'est quand même une bonne gestion énergétique, donc peut-être aussi un gain en puissance, mais ça veut dire un iPad Pro vraiment itératif. Par rapport à l'iPad Pro 2020, pas de grosses nouveautés, mais voilà, ce sera utile pour ceux qui veulent acheter un iPad Pro et qu'ils attendent un petit peu. Alors, on suppose que du coup, les prix ne devraient pas franchement augmenter, mais heureusement, ce que tu disais, l'accessoire, donc 350 euros.
Alors, écoute, j'entends regarder parce que.
Il est à partir de 900.
Voilà, il y a des prix un peu bizarres parce qu'il y a plusieurs accessoires en fait officiels d'Apple.
Ça dépend, hein. Bon, ça dépend de la taille, évidemment. Voilà, alors, petite rumeur aussi, on ne sait pas trop si justement cet affichage mini LED, ce serait uniquement pour le grand format, le 12,9 pouces. Ou pour les deux, c'est-à-dire le 11 pouces. Donc ça, on verra aussi mardi soir. Et puis, des questions autour des surprises. Alors, est-ce qu'on aurait enfin les AirTags? Alors, moi, j'ai beaucoup été, on va dire, un peu circonspect par rapport à ces AirTags. Je me suis dit, oh, ça fait des ans,
rappelons
des années.
C'est ces petites balises Bluetooth.
Alors,
hein.
Des petites balises Bluetooth. Moi, ça fait des mois, je me dis, mais non, ces AirTags, ça ne va jamais arriver. Franchement, qu'est-ce qu'Apple va aller faire là-dedans? Et en fait, bah, du coup, moi, maintenant, j'y crois.
ça y est, t'as changé
d'avis. Non, mais j'y crois pour deux raisons. D'abord, au niveau du timing, parce que Apple a lancé la fonction localisée et l'a ouverte aux tiers. Donc, on a l'impression qu'Apple veut vraiment avancer là-dedans. Et que tu disais balise Bluetooth, mais balise aussi ultra wideband, c'est-à-dire avec la puce U1 qui permet de localiser avec bien plus de précision en se servant de tout l'écosystème Apple, enfin pas tous les produits, mais notamment les iPhones de moins de 2 ans et l'Apple Watch Series 6. Et je me dis, le timing serait bon parce que du coup, ça fait 2 ans, 1 an et demi qu'on a les premières puces U1 vraiment dans l'iPhone et que finalement, on commence à avoir, on va dire, un maillage qui est vraiment important. Et donc, j'avoue que j'y croyais pas. Et ben là, je me dis...
Là, tu changes d'avis.
Je suis en train de changer d'avis. D'accord. Et je me dis, bah oui, peut-être qu'Apple va présenter ces fameux AirTags.
Bon, Emmanuel, toi aussi qui es un fin connaisseur un peu de tout ça, qu'est-ce qu'on peut attendre, à ton avis, de cette keynote qui alors, est un peu surprise, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Oui, alors déjà, c'est la troisième fois qu'ils font une conférence à cette période de l'année. Il y en a une l'année dernière, mais qui était en conférence, forcément en visio, celle-là aussi.
Qui était d'ailleurs un petit peu plus tôt dans l'année, je crois. C'était plutôt en mars, non? Moi, je me souviens, alors, j'y avais assisté, c'était en plein
confinement. Ce qu'ils avaient fait aussi, c'est qu'ils avaient dévoilé, ils avaient fait une série de communiqués de presse quasiment tous les jours, pour dévoiler des produits.
Exactement.
Ils avaient pris ce format-là.
Alors, c'est une période qui était un petit peu plus dure que celle qu'on vit actuellement.
Oui, c'est ça, aussi. Exactement. Après, il y a deux attentes. Une qui semble très très probable, qui est la mise à jour d'iOS. Alors pourquoi cette mise à jour est importante? C'est celle qui va susciter le plus de, en gros, de levée de bouclier des annonceurs.
Alors c'est la mise à jour d'iOS 14.5.
À mon avis, Tim Cook va se faire un plaisir de tacler un peu Facebook.
C'est ça, exactement.
Je pense que ça va être un bon moment de cette keynote.
Oui, il va se faire plaisir.
Alors pour rappel, juste cette mise à jour d'iOS doit permettre de plus être traqué d'une application vers une autre application sans que l'internaute, enfin le mobinaute en l'occurrence, n'ait donné son accord dans son téléphone ou sur sa tablette. Donc on sait aujourd'hui que ça peut déstabiliser l'écosystème des annonceurs, hein, dont celui des éditeurs de presse, hein, comme nous, puisque si les gens disent non, et ben du coup ça bloquerait éventuellement l'accès aux applications, ou en tout cas il y aurait un mode dégradé de l'accès à ces applications. Donc il y a des enjeux publicitaires énormes de tracking dans l'écosystème iOS. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment à voir, alors qu'il n'est pas du tout dans du hardware, hein, on est dans du soft, mais en l'occurrence, les répercussions sont potentiellement énormes. Et puis l'autre chose, alors probablement ce ne sera pas dévoilé là, mais c'est Bloomberg estime qu'il devrait y avoir un nouvel Apple TV qui intégrerait la fonction HomePod qui a disparu, tu sais, le HomePod, celui bas de gamme a disparu.
Effectivement.
Donc qui pourrait rentrer dans l'Apple TV avec une caméra, et puis donc un système de speaker basé sur Siri sur lequel on pourrait faire des demandes à l'Apple TV. Alors Bloomberg dit que Apple ne serait pas totalement prêt pour le mois de mars, mais ça serait courant en année 2021, donc c'est éventuellement la suite de l'Apple TV, puisqu'il n'y a pas eu grand-chose depuis un certain temps.
Moi, après, je serais assez étonné sur le côté caméra, parce qu'Apple fait vraiment très attention à la protection de la vie privée. Et je ne sais pas s'ils vont commercialiser, si ce serait vraiment dans leur stratégie de... À la limite, une Apple TV avec une enceinte en plus,
ça peut être
comme ce que font les opérateurs avec les Vialet, ils font tout ça avec les box. Pourquoi pas, mais moi, c'est le côté caméra. Mais alors après, ce qui est vrai aussi... c'est que le système portal de Facebook, par exemple, franchement, marche super bien. Et Apple, c'est aussi iMessage, c'est aussi FaceTime. Il pourrait aussi, à l'inverse, les deux pourraient être intéressants, mais il va falloir qu'ils aient un discours assez bien rodé sur la vie privée. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant.
Alors, je pense que c'est lié aussi à la pandémie,
bien sûr.
Qu'on puisse plus bouger, aller voir ses proches,
forcément.
Etc.
C'est vrai que la visio devient aujourd'hui.
Mais on s'y est habitué. Est-ce qu'on va pas aussi conserver cet usage après?
Mais c'est vrai qu'il y a vraiment qu'aujourd'hui, avec FaceTime, tu peux pas avoir FaceTime sur ta télé?
Non.
Ou alors c'est d'une complexité, il faut que tu branches ton Mac via HDMI, enfin c'est un truc de dingue.
Et à l'inverse, portal de Facebook, franchement.
Mais ouais, ça marche super bien.
C'est un produit qui
est super bon. Et c'est vrai qu'Apple peut se dire, tiens, peut-être que je peux sortir un produit un peu hybride, à la fois qui fasse du son, qui soit un Apple TV. Après, c'est où est-ce qu'on va le placer? Parce que l'Apple TV aujourd'hui, sa force, c'est qu'il est très discret,
et oui,
tu le mets dans une armoire.
Si on se filme et qu'on a la porte de la commode devant, c'est pas très pratique.
C'est pas
mais encore une fois, peut-être qu'il sera un plaisir d'aller concurrencer Facebook et de se dire, bah nous on va faire un portal mais en protégeant la vie privée.
Moi j'y crois pas trop à ce produit-là tout de suite parce qu'il n'y a pas eu de fuite. En général, quand il y a du hardware chez Apple, il y a toujours de la fuite avant. Là, on n'a rien du tout.
Non, ça paraît... C'est un projet, mais effectivement, de le voir arriver mardi, ça paraît un peu tôt.
C'est peut-être un peu tôt. Mais si ce n'est la disparition de l'HomePod, tout cas sur sa version de base, ce qui en a surpris plus d'un, hein, parce que ça actait le fait que c'était plutôt un échec. Donc ça permet de faire renaître l'HomePod sous une autre forme.
Sous une version un peu plus,
après, il y a le mini qui est toujours...
Le mini qui est toujours là.
Qui est toujours là.
Exactement.
Hein. Ouais. Mais, et puis après, la question, c'est aussi les AirPods. Bloomberg en avait parlé d'ailleurs fin 2020, en parlant d'une commercialisation début 2021. C'est vrai que les AirPods classiques, ça fait un petit moment quand même. Alors, ils ont été rafraîchis, il y a eu les AirPods 2, mais qui franchement ne changeaient pas grand-chose. Les AirPods Pro, ça va faire quasiment un an et demi. Donc, au niveau timing, pourquoi pas aussi quelque chose du côté des AirPods. Ça pourrait être intéressant aussi.
Bon, mais comme le disait Raphaël, c'est vrai que faut bien voir que l'iPad, parce que ça semble un peu petit, aujourd'hui, iPad, sur le dernier trimestre d'Apple, c'est 8 milliards de chiffre d'affaires, en progression de 41%. Ils reviennent à des chiffres d'affaires de 2014. Oui. Donc, c'est vraiment le terminal qui explose.
Ah, ça cartonne. Quand même. Bah, tout le monde dans la maison a renouvelé pendant le confinement.
Bien sûr.
Ça. Ah, tiens, il y avait un vieil iPad qui traînait, qui commence à plus trop se mettre à jour. Parce que l'iPad, c'est. On change quand il se met plus à jour et quand il marche plus, mais c'est pas tellement un produit qu'on renouvelle tous les ans.
Allez, on enchaîne parce qu'il y a pas mal de choses dans l'actu. Eh bien, c'est le rachat de Nuance par Microsoft, un rachat énorme, hein, quasiment 20 milliards de dollars sur la table pour acheter donc Nuance Communication, qui est la pépite de la reconnaissance vocale. On est d'accord.
Oui, entre autres. Non, mais c'est vrai que c'est plutôt connu effectivement pour la reconnaissance vocale. Il se trouve qu'ils ont développé une verticale dans le domaine de la santé qui représente quasiment 60% de leur chiffre d'affaires aujourd'hui. Hein. Donc c'est le cœur de métier de Nuance. Donc c'est d'aider en fait les médecins à par exemple à faire leurs ordonnances. Donc,
c'est la secrétaire killer en fait.
Exactement. Donc c'est par la dictée effectivement ou
les comptes rendus aussi.
Les comptes rendus exactement.
Et en fait ils ont un savoir-faire pour reconnaître tous les mots médicaux un peu
exactement,
compliqués
très pointu,
etc.
Puisque maintenant, ils ont 20 ans d'expérience dans le domaine. Et puis, il faut bien voir, ce qui est marrant, c'est que ça se télescope avec IBM, qui essaye de vendre sa branche Watson Healthcare, qui était notamment destinée justement à faire des diagnostics, notamment autour de radiographie, ou d'aider des médecins, d'aide à la décision sur des thérapies éventuelles. Et IBM a dit que comme ça ne rapportait pas d'argent et qu'ils avaient vraiment du mal à rentrer dans ce secteur, ils étaient en train de le mettre en vente. Donc, on voit que Microsoft, au moment où IBM se retire du domaine de la santé, Microsoft, eux, accélèrent. Et ils peuvent le faire d'autant plus facilement qu'au niveau du Congrès américain, qui aujourd'hui regarde toutes les acquisitions des GAFA, Microsoft, ils sont quand même laissés tranquilles. Hein.
Ouais. C'est dernier, un peu les bons élèves. Hein,
c'est les bons élèves. Alors ça dit, ils en sont pris plein la tête il y a quasiment 20 ans, hein, 21 ans. Donc ils sont passés par là, eux, avant. Et puis surtout, ils sont sur des secteurs plutôt industriels maintenant. Donc en fait, les hommes politiques, on voit, c'est moins voyant en fait, hein, que le particulier avec les données personnelles.
Il y a énormément de soft aussi.
Il y a beaucoup de soft, exactement. Tout ça est basé sur Azure, hein, donc le cloud de Microsoft. Et par exemple, l'an dernier, ils ont quand même racheté deux sociétés pour l'équivalent de 2 milliards de dollars dans la 5G. Donc en fait, ils font des verticales télécom, des verticales santé, des verticales finance. Et on voit tout ça est intégré autour d'Azure, donc le cloud d'Azure. Et c'est vrai que tout ça, ça passe un peu en dessous des radars des hommes politiques parce que c'est très pointu.
Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire de Nuance, tiens? Parce que acheter 20 milliards, deuxième plus grosse acquisition de Microsoft.
De l'histoire, après LinkedIn.
Après LinkedIn. Hein,
c'est ça, exactement.
Qui était à 26 milliards.
Alors, très probablement, ils vont l'intégrer dans leur division cloud, qui est aujourd'hui la plus grosse division de chez Microsoft, avec la progression en termes de chiffre d'affaires de l'ordre de 26% par an. Donc, c'est le cœur du réacteur aujourd'hui de chez Microsoft. Donc, intégrer encore une fois sur Azure, donc le cloud de Microsoft, avec les data centers partout sur la planète.
Et venir titiller le monde de la santé aussi, j'imagine.
Le monde de la santé, le monde de télécom, le monde de la finance. Donc, avoir des verticales où ils puissent adresser des marchés B2B de manière assez forte, basée sur cette infrastructure.
Et surtout qu'ils connaissent bien Nuance, puisque c'est leur client. Puisqu'en fait, Nuance, c'est des données de santé, enfin, c'est des comptes rendus, de l'analyse, mais sur le cloud. Et évidemment, tout ça, c'est sur Azure.
C'est-à-dire qu'ils travaillaient depuis pas mal de temps.
Ils savent ce qu'ils rachètent. Ouais. Et effectivement, pour Microsoft, ils sont un peu tranquilles parce que c'est du B2B. Alors, il y a évidemment l'enjeu des données de santé, mais enfin, Azure est évidemment certifié hébergeur de données de santé, hein, partout où ils sont, parce que c'est quand même parmi les leaders. Donc, ils sont tranquilles du point de vue antitrust.
C'est ça.
Alors, aussi parce qu'ils ont échoué à imposer leurs écosystèmes, hein, notamment dans le mobile. Hein, ils sont orientés dans le B2B, mais c'est vrai que c'est le montant qui interpelle, donc on dit que derrière, il doit y avoir un marché discret, mais vraiment énorme. Parce que LinkedIn, tu parlais, comme tu disais, c'est 26 milliards, donc c'est pas non plus si loin que ça. Donc derrière, le marché et le potentiel est énorme, et c'est une boîte qui marche mieux en version intégrée peut-être que seule finalement.
Après, on se dit, tiens, Microsoft qui est en train d'abandonner sur le bas-côté de la rue Cortana, hein, on en entend de moins en moins parler, on se dit, tiens, c'est quand même assez étonnant. Bah, d'un côté, la reconnaissance vocale dans Windows, bon, on a l'impression que c'est un peu mis de côté. Et puis, paf, d'un coup, quasiment 20 milliards dans une société qui ne fait pas que ça, mais qui est quand même spécialisée là-dedans.
Parce que souvenez-vous, la voix, c'était Bill Gates à l'époque, hein, qui portait ça en disant « ça sera la révolution dans Windows, vous aurez plus à taper votre texte, vos traitements de texte, vous aurez juste à le dicter ». C'était à la fin des années 90. Bon, on n'y est pas encore en 2021, on tape toujours au clavier. Donc, c'est vrai que c'est quand même un échec cinglant aussi de Microsoft dans la reconnaissance vocale pour se tourner aujourd'hui vers des technologies tierces.
Peut-être que Cortana va être reboostée avec toute la techno Nuance, qui sait? On ne sait pas. Ouais, j'y crois pas trop, on verra. Allez, on enchaîne avec maintenant le monde du jeu vidéo. Epic Games, qui, vous le savez, est une énorme entité, hein, qui a énormément de jeux, et notamment le fameux Fortnite, qui a suscité la polémique il y a quelques mois de cela, hein, avec, vous le savez, la bataille féroce entre Apple d'un côté et Epic Games et Fortnite de l'autre. Fortnite qui a levé beaucoup d'argent, hein, Emmanuel.
Oui, 1 milliard de dollars, donc sur une valorisation proche des 29 milliards de dollars, donc c'est quand même énorme. Et puis dedans, dans le tour de table, on retrouve Sony.
Qui a mis 200 millions.
En revanche, Tencent, le groupe chinois qui est au capital, qui aurait 40% de Fortnite, d'Epic, eux n'auraient pas remis au pot. Très probablement parce que vu les tensions entre la Chine et les États-Unis,
je pense que c'est pas le bon moment.
Ils font attention, donc je pense qu'ils préfèrent ne pas suivre.
Ça va être intéressant de voir ce qui se passe. Est-ce que petit à petit ils vont partir en fait d'Epic?
Ouais, ce serait étonnant quand même parce que Epic, il faut savoir qu'il y a deux branches. Il y a celle qu'on connaît avec Fortnite, donc les jeux vidéo, et puis l'autre branche qui est le moteur,
Unreal Engine. Hein.
Voilà, Unreal Engine, et qui aujourd'hui équipe la plupart des grands jeux. Donc Sony est en train de sécuriser en fait un approvisionnement aussi de ce moteur pour ses jeux en propre sur la PlayStation notamment. Donc c'est vrai que c'est plutôt smart, enfin plutôt malin de la part de Sony. Et puis derrière il y a ce qu'on appelle le metaverse, hein, c'est-à-dire que intégrer d'autres choses à l'intérieur du jeu, notamment des concerts. Il faut savoir que dans Sony on a quand même Sony Music. Donc ce serait pas idiot de voir des artistes de Sony Music arriver dans le monde de Fortnite, par exemple. Ouais. Comme par exemple Warner Music a mis du cash dans Roblox, un autre monde virtuel, et a commencé à pousser ses artistes dans le monde de Roblox pour faire des concerts virtuels. Donc on voit que c'est le nouveau champ maintenant des majors de la musique de rentrer dans le jeu vidéo.
Et puis il y a la PlayStation 5 aussi, hein, bien sûr, donc on peut imaginer pas mal de choses. Raphaël ?
Bah, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'est en train de créer Epic Games, alors notamment avec Fortnite, c'est-à-dire cette sorte de méta-univers, parce que là, on le voit derrière nous, mais on a des personnages notamment de Star Wars, donc c'est des licences qui normalement ne vont pas comme ça s'immiscer chez d'autres, mais Fortnite est devenu tellement fort,
tellement puissant,
que Marvel, alors Disney en fait, hein, il va à fond, et cette notion de méta-univers, c'est-à-dire cet univers qui va regrouper finalement un peu tous les autres, ça pourrait placer Epic Games dans une situation absolument exceptionnelle. Mmh. Epic Games, c'est alors peut-être que c'est la boîte qui réussira à faire ce qu'on a voulu faire avec Second Life il y a quelques années, mais avec à l'arrivée un modèle économique absolument performant, parce que ce qui manque à ces univers virtuels, c'est la monétisation, et Fortnite a réussi à faire ça, a réussi à convaincre les gens de dépenser des milliards de dollars en ligne pour s'acheter des tenues virtuelles, des danses virtuelles, c'est-à-dire vraiment à vivre une vie virtuelle en dépensant de l'argent. Et c'est le point de départ. Et grâce à ça, ils vont pouvoir, en tout cas, aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et finalement, ce modèle de méta-univers, c'est-à-dire un univers virtuel qui n'est plus uniquement un jeu vidéo, un jeu de tir, mais où on a des concerts, on a tout, évidemment, ça se valorise, mais alors de façon monumental. Et moi, je pense que finalement, ce que veut faire Epic Games, c'est faire ce que voulaient faire les créateurs de Second Life, mais en version 2021, et qui rapporte beaucoup d'argent.
On pensait que la mésaventure Apple Epic Games allait donner un coup à Epic. Finalement, ils s'en sortent bien. Hein. Bon, alors rappelons quand même l'histoire. Hein. Cette commission 30% sur tous les achats in-app sur les iPhones.
Bah, quelque part, on voit bien justement dans cette volonté de créer le méta-univers, entre guillemets, qu'Epic Games ne peut pas accepter une commission de 30% sur tout cet univers-là.
Non, mais on pensait qu'en se retirant de l'écosystème Apple, ça allait être compliqué pour eux. Bah, finalement, ils lèvent toujours
Ils ont perdu une partie de leurs joueurs, notamment sur iPhone, mais après, effectivement, ils sont tellement forts.
Il faut avoir le courage de faire ça. Hein,
ils avaient surtout les reins solides, effectivement.
Oui, ils ont les reins solides, et puis je pense qu'ils voulaient entraîner plein de sociétés derrière eux.
Il y a un mouvement de fond.
Ça a marché, ça ou pas ? Bah, y a eu Spotify, quand même, au niveau européen, en tout cas. Et puis, il y en a d'autres qui ont suivi. Il y a eu, Match.com, le site de rencontre. Donc, en fait, il y a quand même une coalition anti-Apple qui commence à monter. Enfin, Apple et puis d'ailleurs Google aussi, hein, puisque il y a aussi cette situation-là chez Android.
Ça fait aussi un peu changer le braquet d'Apple, hein, sur des entreprises qui faisaient moins d'un million.
Ils sont passés de 30 à 15%.
C'est ça.
Mais bon, alors, c'est très malin de la part d'Apple, parce que ça concerne, je pense, 80... Alors, en fait, ça concerne 98% des développeurs, mais en chiffre d'affaires...
C'est peanuts,
donc c'est très bien. Ouais. Mais finalement, c'est pas mal, ça concerne vraiment du monde, donc ça change quand même la vie de beaucoup de développeurs. Après, la différence, c'est que là où Spotify, Netflix, ils s'étaient dit on va simplement empêcher les gens de s'abonner via l'appli, via l'App Store, c'est-à-dire on dit vous créez votre compte sur votre ordinateur et ensuite vous venez utiliser l'appli sur Apple, sur votre iPhone. Epic Games, ça a été beaucoup plus loin parce qu'ils ont enfreint les règles de l'App Store en disant non, vous allez vous abonner via votre iPhone, mais sans l'App Store, ce qui est illégal. Et donc, ils se sont fait bannir leur application, ce qui n'est pas le cas des autres. Donc, Epic Games a aidé beaucoup plus loin.
Oui.
Et il y a le procès qui va commencer le 3 mai. Et ça va être très intéressant de regarder ça, parce que derrière, ça va être forcément un cas d'école.
Ça risque de durer un moment, non, ce procès ?
Oui, ça risque de durer un moment, sauf si Apple fait des concessions, parce qu'ils ont commencé à faire des petites concessions, quand même, pour montrer, comme le disait Raphaël, que finalement, ils sont plutôt ouverts, même si ça leur coûte pas grand-chose, en l'occurrence. Mais en tout cas, ils ont fait un petit pas en avant.
Et puis en termes d'image, c'est pas terrible pour Apple.
C'est pas terrible, non.
C'est plutôt, en général, une bonne... un bon retour.
Ils essaient, bien sûr. Oui. Mais bon, c'est vrai que sur les 30% de commission, il faut rappeler que c'est la commission un peu standard. Qui est tout, y compris, alors je sais plus à combien ils sont, Epic Games sur leur Epic Store, ils sont un peu moins, ils sont à 12, entre 12 et 15, il me semble.
Le problème, c'est pas tant ça, c'est qu'effectivement, on puisse pas mettre d'autres stores.
Mais voilà, c'est ça.
Sur
c'est
l'iPhone, choix, par exemple. Voilà, c'est ça. Donc on est obligé de passer par Apple. Voilà, c'est ça. Et puis le côté duopole, entre d'un côté Android et de l'autre iOS, donc il fait qu'on est obligé de passer soit par l'un, soit par l'autre.
Tiens, on parlait de milliards tout à l'heure, ça continue aussi les milliards, hein. Et il y a toujours Sony dans la danse, sauf que cette fois-ci c'est pas Sony qui donne 200 millions à Epic, c'est Sony qui va en recevoir 1 milliard de la part de Netflix.
De Netflix, effectivement. Alors pour les fans de l'univers Marvel qui veulent voir tous les Marvel sur Disney+, bah tant pis, ils pourront pas voir Spider-Man sur Disney+, alors que c'est une licence Marvel, hein. Mais il se trouve qu'effectivement Sony, donc tous les Spider-Man passés et les futurs seront directement sur Netflix. Donc on voit aujourd'hui quand même que Netflix est obligé de sécuriser des noms, des grands noms, des grandes franchises, et peut pas tout laisser partir chez Disney, chez HBO par exemple, qui est en train de reprendre le catalogue de Warner. Donc on voit qu'ils sont en train de mettre de l'argent sur la table, parce que eux-mêmes essayent de pousser leur création de super-héros, mais ça marche moyennement. Il y a eu Umbrella Academy par exemple, mais qui n'est pas encore du niveau de Marvel. Donc on voit qu'ils, malgré tout, ils dépendent encore des studios, même s'ils essayent dans des...
Ils veulent sécuriser aussi des grosses licences, hein, parce que chez Sony, bon, il y a Spider-Man, mais il y a d'autres blockbusters.
Oui, alors il y a Venom. Voilà. C'est Marvel aussi.
C'est ça.
Mais il y en a d'autres, oui, effectivement.
Donc, alors, qu'est-ce qu'ils achètent, là ? Ils achètent la possibilité de diffuser ces films-là lorsqu'ils sortiront ?
En exclusivité, donc sur le bas de catalogue, enfin sur l'ancien catalogue, et puis sur les nouveautés qui vont arriver. Donc, c'est sécuriser le passé et puis l'avenir. Donc, c'est plutôt malin de la part de Netflix, même si c'est un gros chèque, quand même, qu'il a fallu faire à Sony.
Oui, plus d'un. En fait, c'est un milliard, mais c'est beaucoup plus d'argent, finalement, parce que je crois que c'est des deals qui s'écoulent sur plusieurs années. Voilà, Netflix est obligé, comme le disait Emmanuel, de se diversifier et ne peut pas compter que sur ses propres productions. Parce qu'on voit par exemple que Friends va bientôt partir, en tout cas en France, où c'est peut-être déjà le cas. Parce que HBO...
Alors c'est parti aux États-Unis, il me semble, et en France ça l'est encore, pour le moment c'est encore, mais ça dépend des pays évidemment.
On imagine que quand HBO Max va arriver en France, ils vont enlever ça de chez Netflix. Donc voilà, il faut que Netflix arrive à essayer d'avoir le maximum de contenu.
Mais on parlait de duopole pour Apple et Google, pour iOS, Android. Moi, je pense qu'on va arriver à un duopole aussi avec Netflix et Disney, et que tous les autres, HBO Max, tous les dizaines d'acteurs, ça va être quand même très compliqué, parce qu'à un moment, les clients, c'est bien gentil, mais
on ne peut pas mettre 50 euros par mois
pour des films.
Et encore, en France, on a MyCanal en plus.
Et en France, on a MyCanal qui est assez fort, mais ce qui est cher, je veux dire, si on fait... pour le moment, MyCanal, par exemple, puisque tu en parles, il y a des deals avec Disney où ça fait qu'on paye quasiment pas Disney+. Mais si on veut avoir sans ces deals-là et si on raisonne en matière de prix, alors Disney+, qui est évidemment sous-pricé, entre guillemets, puisqu'ils sont en conquête, mais on voit ce qui se passe avec Netflix. Ils vont tous arriver vers ces 15 euros par mois. En gros, ça va être du 15 euros par mois pour une famille. Pour une famille, ce sera deux services maximum. Donc, clairement, à mon avis, d'ici quelques années, on va arriver à du Netflix versus Disney. Et je pense que les autres vont devoir revendre leur catalogue parce qu'on n'a pas la place pour 50 plateformes.
Et encore, tu ne parles pas du sport. Parce qu'il y a encore un investissement supplémentaire pour tout le foot.
Moi, c'est la grosse question que je me pose. Est-ce que le sport va rester complètement distinct de tout ça ? Ce qui est le cas aujourd'hui. C'est complètement étanche. Mais on voit quand même que chez Amazon, le sport se rapproche. Que d'ailleurs, ce qui est intéressant...
Wimbledon arrive sur Amazon.
Roland-Garros. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les documentaires sur Netflix et Amazon sur les sportifs. Là, il y a une, notamment, alors je ne sais plus sur quelle plateforme, une série sur Serena Williams, mais il y a aussi les coachs sur Netflix qui a cartonné. Il y a les épisodes, enfin, il y a le doc sur Varane, sur Griezmann. Enfin, je veux dire, le monde du sport fait vraiment envie à Netflix et Disney.
Après,
et Amazon.
Après, c'est un autre modèle, hein, c'est du live. Et toutes ces plateformes
alors, justement,
ne font pas
mais on sent
aujourd'hui.
Que le, on sent que le sujet les titille beaucoup.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Donc la question, c'est est-ce que ça va un jour se fusionner ?
Mais le jour où ils ouvrent la boîte de Pandore du live, ça va tout changer, hein.
Ouais, je pense qu'ils veulent pas. Hein.
Ils veulent pas. Hein.
Ben non, parce que c'est après, faut acheter les droits par pays. Ça veut dire des montants et des factures à payer extrêmement importantes. Donc c'est compliqué. Hein. Le seul à le faire, c'est Disney avec ESPN. ESPN aux États-Unis qui n'existe pas en France. ESPN Plus, donc qui est le pendant de Disney Plus pour le sport en direct, est fusionné aujourd'hui dans une offre avec Hulu, Disney Plus et ESPN Plus, mais juste aux États-Unis.
Bah finalement, la Ligue 1, en gros, c'est un milliard. C'est comme Spider-Man, voilà. C'est comme Sony. Non, mais c'est vrai,
pays.
C'est le même prix.
Mais par pays.
Par pays, oui, mais
c'est ça.
Mais alors que juste, bon, la Ligue 1, bon, en France...
Enfin,
la Ligue 1...
c'était avant avec Mediapro. Je pense que ça va coûter beaucoup moins cher.
Ouais, bon, on sera pas loin, je pense. Mais bon, on sera peut-être à 800 millions.
Bah là, Dazone en Italie, ils ont mis un milliard avec Télécom Italia. Hein. Ouais. Donc, pour les droits de la Ligue 1.
La différence, c'est que Spider-Man, en France, aux États-Unis, en Inde, ça cartonne. Nîmes-Rennes.
Attention, un terrain glissant.
Attention, tu es sur un terrain glissant.
Non, mais voilà, c'est, disons que c'est un peu moins safe. Sur
Pyrénées, tout va bien. Vous coupez ce qu'on a dit avant. Hein. Ben non, on coupe pas, c'est pas grave.
Non, j'adore Nîmes et j'adore Rennes.
Bon, ben voilà, très bien, très bien. Bon, ben messieurs, merci. Passionnant tout ça. Merci beaucoup Emmanuel Paquette, journaliste à L'Express. Et bien sûr Raphaël Grabli de BFM Tech. Merci à tous les deux. Ce De Quoi Je Me Mêle revient dans un instant avec Nicolas Lelouch que vous connaissez. Il va venir avec ses smartphones, Nicolas, et il va nous faire sa petite sélection de printemps. 200€, 300€, quel est votre budget? Il vous donnera les meilleurs rapports qualité-prix. Ça sera dans quelques instants. À tout de suite.
De Quoi Je Me Mêle sur BFM Business et 01 TV. BFM Business et 01 TV présentent De Quoi Je Me Mêle, François Sorel.
Nous voilà donc de retour, vous le savez, le dimanche matin sur BFM Business, à la radio, à la télé et sur 01 TV pour De Quoi Je Me Mêle. Pour cette deuxième partie, on va s'intéresser aux smartphones. Quels sont les smartphones les plus séduisants en ce printemps 2021? Quels sont les meilleurs rapports qualité-prix? Quel est le top du top? Et quelles sont aussi les tendances? Et pour en parler, évidemment, il n'y a que lui qui peut nous expliquer tout ça aussi bien. C'est Nicolas Lelouch. Salut Nicolas.
Salut François, merci.
Ravi de te retrouver. Nicolas, vous le savez, journaliste à 01net.com, c'est lui qui teste des dizaines et des dizaines de smartphones par an. Peut-être même des centaines, je ne sais pas. Peut-être pas.
Centaines,
mais...
peut-être pas, mais...
on n'est pas loin de la centaine, je pense.
On ne doit pas être loin, ouais. Il y a beaucoup d'appareils qui passent entre mes mains. Beaucoup trop, d'ailleurs.
Et d'ailleurs, c'est intéressant, hein, les protocoles de test de 01 sont taillés pour ressembler, en fait, à nos habitudes d'utilisation du téléphone. Hein.
Oui.
Et c'est ça, un peu la particularité du labo de 01, c'est que lorsqu'on vous dit qu'un smartphone est bien ou pas bien, c'est qu'il subit des tests, il suit des tests vraiment spécifiques.
Oui, c'est ce qui est important chez nous, c'est qu'on... Mon avis à moi ne représente que 25% de la note. Le reste, en réalité, il est dicté par un protocole extrêmement précis qui va mesurer la luminosité de l'écran, le taux de contraste, les performances, l'autonomie, avec, c'est ce que tu racontais, un protocole très précis qui réplique ce que vous allez faire au quotidien, à savoir défiler des photos, aller sur Internet, tout ça. Donc l'idée, justement, avec ce protocole, c'est d'avoir un vrai classement qui met tous les appareils au même niveau.
Alors, on va découper cela en plusieurs parties. Les smartphones à moins de 200€, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des smartphones séduisants,
tout à fait,
en tout cas intéressants, à moins de 200, moins de 300, moins de 500, et puis après, le top 3, le haut de gamme, le top du top du moment, hein, les trois smartphones qui, évidemment, font partie des meilleurs. Peut-être évoquer la 5G aussi, parce que c'est une année un peu particulière, hein, une année charnière. Ça y est, beaucoup de smartphones sont 5G aujourd'hui. Il en existe encore qui ne sont que 4G. Alors, je ne sais pas si dans ta sélection, ils sont tous 5G, mais... aujourd'hui, il faut se poser encore la question, est-ce qu'on doit acheter un smartphone 5G ou pas, Nicolas?
Oui. Alors, ils ne le sont pas encore tous 5G dans cette sélection pour une raison assez simple. Sur l'entrée de gamme, on commence à avoir des appareils 5G. On a des smartphones à 200€ aujourd'hui qui sont compatibles avec la 5G, mais ils sont très mauvais.
Ah.
Parce que les processeurs qui permettent justement d'avoir la 5G à petit prix font énormément de concessions. Généralement, on perd un appareil photo, on n'a pas d'ultra grand angle par exemple. Donc, ma recommandation est de vous dire que si vous avez un budget pour un smartphone qui est de 200€, vous n'allez pas avoir le besoin pour la 5G aujourd'hui. De toute façon, elle n'est pas assez bien déployée. Donc, pas de 5G sur les segments d'entrée de gamme. Maintenant, à partir de 400-500 €, pour moi, c'est indispensable de prendre un appareil compatible 5G parce que vous risquez de le garder longtemps ou de le donner à quelqu'un quand vous n'en aurez plus besoin.
Cette tendance va évoluer, à ton avis, Nicolas ? Est-ce qu'on peut imaginer que dans quelques mois ou peut-être l'année prochaine, à 200 €, on aura des smartphones de qualité avec la 5G ? On peut imaginer que voilà, ça va se...
Forcément, parce que déjà, il ne faut pas raisonner sur le marché français uniquement, sur certains marchés, dont la Chine, qui est aujourd'hui le principal acteur en termes de fabrication de smartphones. La 5G, elle est extrêmement déployée et on va progressivement basculer vers un modèle où tous les mobiles seront 5G, peu importe leur prix. Donc il y a de grandes chances que d'ici la fin de l'année et début 2022, la question ne se pose même plus parce que la 5G sera là quoi qu'il arrive, donc on se posera d'autres questions. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai tendance à vous recommander entre, on va parler des Redmi de Xiaomi dans quelques instants, entre la version 4G et la version 5G. La version 4G qui a un processeur Snapdragon, elle est meilleure que la version 5G avec le processeur MediaTek.
C'est dingue, hein. Est-ce que c'est le bon moment, là, on est aux alentours de la mi-avril 2021, est-ce que c'est le bon moment d'acheter un smartphone, Nicolas ? Ou est-ce que, voilà, peut-être décaler son achat de quelques semaines ?
Alors, c'est le bon moment à un seul segment près. Pour l'entrée de gamme, le milieu de gamme et le haut de gamme, tous les constructeurs ont fait leurs annonces et ils sont prêts justement pour toute la saison, pour l'été. Donc là, c'est le bon moment. Par contre, le segment du haut de gamme à prix cassé, celui qu'on appelle le flagship killer en général, c'est pas forcément le bon moment parce que vous vous doutez que vu qu'en début d'année, on a tous les smartphones haut de gamme, les constructeurs, ils veulent vendre les smartphones les plus chers. Donc du coup, les modèles comme le Galaxy S20 FE l'année dernière, par exemple, ils seront renouvelés en fin d'année et c'est à ce moment-là, vers Noël, que ce segment-là sera vraiment intéressant.
Oui, on va dire que la deuxième fenêtre de tir, ce sera pendant la sortie du nouvel iPhone, où là, Samsung, par exemple, sort son iPhone killer, et là, ça sera sans doute le S21 FE.
Tout à fait, ce sera septembre-octobre, c'est généralement la période où on a le plus de smartphones, avec février, mars, avril.
On va évidemment rentrer dans le détail de ce classement, parce que je sais que vous l'attendez, mais je fais un petit peu durer le suspense. Le pliant, tiens, tu testes pas mal de téléphones pliants, voilà, alors verticaux, horizontaux, etc. Il y a aussi de nouveaux concepts qui arrivent. Est-ce que ça fait partie de ton classement, là, ou c'est encore un peu de la science-fiction, le pliant ? Alors, sérieux.
Ça pourrait l'être, mais soyons raisonnables, un smartphone à 2 000 € n'a pas sa place dans un classement grand public. Donc non, aujourd'hui, de toute manière, il n'y a aucun smartphone pliant dans nos top 10 sur 01net.com. D'autant plus qu'il y a quand même très peu d'appareils pliants. J'en ai pas encore vu de l'année 2021, même si Huawei en a annoncé un, Xiaomi aussi, mais ils ne nous les ont pas encore envoyés, ils ne les ont pas encore montrés à la presse. Donc il va falloir être un petit peu plus patient pour essayer ces appareils. Ça pourrait changer dans l'année, surtout si Samsung arrive à faire baisser les prix comme les rumeurs l'annoncent. Si Xiaomi lance son mobile pliant en France, qui pourrait avoir un tarif à peu près similaire à celui d'un ultra haut de gamme chez la concurrence. Donc on va voir comment ça évolue, mais aujourd'hui, c'est des appareils réservés vraiment aux geeks, réservés aux utilisateurs qui n'ont pas peur d'avoir les premiers défauts de première génération, même si je continue à dire que je les trouve excellents à titre personnel. Donc, on ne peut pas vraiment les recommander à tout le monde.
Est-ce que tu penses que dans quelques années, dans le top des smartphones du moment, il y aura du pliant ? Est-ce que c'est une tendance
Je pense même que, vu la qualité du Galaxy Z Fold 2 cette année, si le Z Fold 3 est au niveau, il gomme quelques défauts et il améliore justement tout ce qui n'allait pas l'année dernière, pour moi, ça sera le meilleur smartphone du moment. C'est déjà aujourd'hui le Galaxy Z Fold 2 mon téléphone préféré. Le truc, c'est qu'il coûte deux fois plus qu'un smartphone haut de gamme concurrent et qu'il y a encore toutes les interrogations sur comment ça va évoluer. Donc, c'est compliqué de le mettre au sommet.
Alors, vous allez voir que dans ce classement, on va parler de Xiaomi, de Realme, de Google, de Samsung, d'Oppo, d'Apple, et pas de Huawei. C'est la première année où Huawei est absent de ton classement.
Ce qui est assez dommage, c'est que Huawei était le numéro 1. Il était en train de devenir le numéro 1. Et sur la dernière année avant l'intervention de Donald Trump, c'était Huawei qui fabriquait les meilleurs smartphones. Et c'est ce qui est triste aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus du tout les mettre dans le classement, qu'ils ne sont même plus considérés pour prétendre justement au titre du meilleur appareil, parce qu'au vu de l'expérience logicielle, de l'incertitude qu'il y a autour de cette marque, du fait que plein de personnes partent, que les autres constructeurs essayent de lui piquer ses parts de marché, Huawei n'a plus du tout sa place et on ne sait pas comment ça va évoluer. C'est vraiment dommage parce que le matériel est de qualité et on continue à le voir dans le test aujourd'hui, mais progressivement, ça risque de tomber.
Voilà. Rappelons que Huawei sort de nouveaux téléphones, mais ils sont inutilisables en l'état.
Ils le sont pour un public qui est vraiment très connaisseur.
C'est ça. C'est-à-dire que pour avoir les services Google, il faut bidouiller. On va peut-être rencontrer des problèmes de sécurité, enfin, etc. etc. Donc c'est compliqué. Ça. C'est pour ça qu'ils ne font pas partie de ce classement. On le regrette, hein, d'ailleurs. Hein. Et vous qui nous écoutez, peut-être avez-vous acheté le Mate 40 ou le
P30 Pro, c'est le meilleur, hein, le top du top.
Voilà. Il est encore en vente, le P30 Pro ?
Il n'y a plus de stock, c'est le problème. C'est que pour Huawei a survécu toute l'année dernière en vendant le stock de P30 Pro.
Qui datait de l'année d'avant
et qui était encore l'année dernière certainement un des meilleurs smartphones haut de gamme. Mais aujourd'hui, il est à peu près en rupture de stock partout. Et c'est le P30 Pro, encore en fin d'année dernière, était dans mon top 10 des meilleurs smartphones haut de gamme. Et je l'ai retiré il y a quelques semaines parce qu'il n'était plus en vente.
Alors, on attaque et on va commencer par ce segment des smartphones à moins de 200 euros, Nicolas.
Oui. Avec un choix assez facile, parce qu'il n'y en a qu'un seul. et vous n'allez pas être surpris, hein, c'est Xiaomi, hein, le Redmi Note 10 qui est arrivé il y a quelques jours. C'est un smartphone qui est tout récent. À 200 euros, c'est difficile de faire mieux. Certes, vous n'aurez jamais la fluidité que vous allez avoir sur un smartphone commercialisé 100 ou 200 euros de plus. Mais quand même, il faut reconnaître que ça fonctionne bien, que l'autonomie elle est bonne, que l'appareil photo il est loin d'être mauvais, y compris de nuit, que l'écran est de plutôt bonne qualité. Donc, à 199 euros, je vous en prie, n'allez pas acheter un smartphone concurrent, prenez le Redmi Note 10, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Pour moi, le Redmi Note 10, c'est l'équivalent de ce que vous trouvez chez la concurrence pour 300-350 euros,
d'accord,
mais à 199 euros.
Ah ouais,
donc à ce prix-là, c'est vraiment excellent. D'ailleurs, c'est le produit numéro 1 de Xiaomi, et c'est sur celui-là qu'il y a certainement le moins de marge, parce qu'ils veulent faire l'appareil de référence pour se faire connaître, donc il faut en profiter.
Wiko, Motorola, tout ça, qui ont des téléphones dans ces gammes.
Pas à 200 euros.
Pas à 200
euros,
ça vaut pas le coup.
Ça peut être bon un peu plus haut, mais à 200 euros, c'est compliqué d'être au niveau de Xiaomi.
D'accord. Et donc, pour on va dire, moins de 200 euros, on a un téléphone qui, comme tu le disais, tient la route et on ne sera pas ridicule avec. C'est-à-dire qu'on pourra avoir tous les usages qu'on a, même le jeu.
Alors oui, avec quand même quelques limites, la qualité graphique ne sera pas exceptionnelle. C'est ça qui est assez étonnant avec ces téléphones, c'est qu'ils ont des bons processeurs qui sont bons justement pour les performances du quotidien. Mais par contre, dans les jeux vidéo, ça fait un petit peu saturer. Et si vous regardez une vidéo qui, je sais pas, vous essayez de charger une vidéo 4K dessus, ce qui a pas de sens en soi, c'est un écran Full HD.
Bien sûr.
Parfois, ça peut complètement planté. C'est là où on voit les limites de ces processeurs,
d'entrée
de gamme. Mais après, en réalité, je pense que la personne qui achète ce téléphone ne va pas télécharger volontairement une vidéo en 4K.
Non.
Donc elle ne va pas vraiment expérimenter ça. Et c'est généralement des personnes qui n'ont pas connu les téléphones à 1000 euros en face. Donc ils ne se rendront même pas compte que le téléphone est un petit peu plus lent que la concurrence. Donc non, Redmi Note 10, c'est vraiment mon conseil. Quand un de mes proches m'appelle et me dit « cherche un téléphone, j'ai un budget de 300 euros », je lui dis Redmi Note 10, qui est à 200.
Ah oui,
donc,
d'accord.
Pour vous dire à quel point c'est quand même un appareil d'exception.
C'est-à-dire que même si on rajoute 100 euros, ça reste quand même le leader de cette gamme
mieux.
De prix.
Il peut y avoir mieux, on va en parler dans quelques instants, mais à 199 euros, au moins on économise de l'argent et c'est imbattable.
Il n'est pas 4G.
Il n'est pas 5G. 4G il l'est, mais il n'est pas 5G.
Peut-être le modèle de l'année prochaine, on verra bien. On monte un petit peu en gamme. Allez, on a réussi à gratter un petit peu. On arrive à avoir un budget de 300 euros. Et là, qu'est-ce que tu nous proposes pour 300 euros?
À 300 euros, on a deux choix. On en a un justement qui coûte justement pile 300 euros et un autre qui coûte 250 euros. Donc ça va aussi dépendre de votre budget. Ma préférence, elle va justement au Realme 8 Pro qui coûte 299 euros, qui est un appareil qui est assez étonnant parce que il réunit plusieurs caractéristiques habituellement exclusives au haut de gamme et il les décline sur l'entrée de gamme. Par exemple, la recharge ultra rapide. Ce téléphone se recharge en une demi-heure. Sur un segment de 200 euros, il y a encore un an, ça mettait 3h30 à se recharger.
Ouais, c'est dingue.
C'est là où on voit le progrès. C'est là où on voit que la Chine, elle apporte vraiment quelque chose. Realme, il faut rappeler que c'est le petit cousin d'Oppo. Donc, évidemment, ils n'ont pas inventé cette technologie
non,
de recharge ultra rapide. C'est la même.
Technologie.
Ils récupèrent les technologies d'Oppo, ils changent le nom, mais c'est exactement la même chose. À l'arrière, vous avez un appareil photo de 108 mégapixels, un capteur de 108 mégapixels. Ça, c'est une fonction, généralement, qu'on retrouve que sur le haut de gamme, sur le Galaxy S21 Ultra, notamment. À 300 euros, c'est du jamais vu. Je ne vais pas vous dire qu'il est aussi bon que celui du Samsung, ce serait faux, mais c'est quand même pas mal du tout, y compris une nuit. Donc on se retrouve avec un vrai appareil qui est un très bon compromis pour celui qui aime les nouvelles technologies, qui veut ne pas se contenter de l'entrée de gamme typique et qui veut aller un petit peu plus loin avec un budget de 300 euros. Donc franchement, c'est bluffant et l'autonomie, elle est absolument redoutable sur cet appareil.
C'est un peu le smartphone malin pour 300 euros, quoi. On se retrouve avec, comme tu disais, des specs haut de gamme pour un prix quand même... hyper étonnant. Hein.
Oui, mais c'est toute la vision de Realme sur ce marché pour se différencier de Xiaomi. Ils ne sont pas très bons sur l'entrée de gamme pure, c'est-à-dire le 200 euros, mais à partir de 300 euros, ils ont tendance à apporter des technologies haut de gamme pour justement faire parler d'eux et se différencier.
Mais c'est quoi le point faible de ce téléphone? C'est les finitions?
Les finitions, clairement. Ah oui. Désolé, je t'ai découpé, mais c'est vrai que là, tu m'as bien interloqué en disant ça. Les finitions, complètement, je trouve que c'est assez cheap, c'est assez épais, c'est en plastique. On voit que l'écran a quand même une belle bordure en bas. Au niveau du design, c'est pas excellent. Après, j'ai tendance à penser que comme Xiaomi, Realme vend quasiment à perte. Donc en soi, c'est pas non plus une catastrophe parce qu'ils arrivent à s'en sortir avec un prix raisonnable tout en faisant des marges très limitées.
Bien sûr, et puis c'est la stratégie aussi de ces nouveaux entrants hein, en France, pour que justement les gens les identifient, il faut que ils cassent les prix, parce qu'autrement ils sont noyés en fait dans la masse de toutes les offres qu'il y a aujourd'hui de smartphones. Donc en proposant un super bon rapport qualité-prix, tu en parles, c'est identifié et les gens commencent à connaître cette marque. Hein.
C'est le but. Moi, j'ai tendance à dire que Realme, c'est OnePlus il y a 5 ans.
Oui, voilà, c'est ça.
Ils ont la jeunesse qui leur permet justement de prendre des risques sans avoir à se rentabiliser, à voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, pour l'instant, vous pouvez y aller. C'est un bon rapport qualité-prix.
On n'est pas 5G là non plus. Hein.
Toujours pas 5G. Ça sera le segment suivant, la 5G.
Très bien. Tu nous proposes aussi le Xiaomi Redmi Note 10 Pro.
Exactement. C'est le fameux appareil à 250€ dont je parlais. Ouais. On va aller rapidement sur celui-là, mais il apporte justement plein de choses que le Redmi Note 10 n'a pas, dont un meilleur appareil photo, une meilleure batterie, de la recharge ultra rapide, et c'est pour ça qu'il est intéressant. Donc celui-là, c'est vraiment pour la personne qui hésite justement, qui se dit oui, mais j'ai un budget un petit peu plus gros que les 200€, mais en même temps, j'ai pas envie de mettre plus, j'ai pas envie d'aller jusqu'à 300. C'est pour moi un des appareils les plus complets du marché. Il n'est pas loin de rivaliser avec le Realme 8 Pro en termes de performance, ils ont chacun leurs avantages. Le Redmi Note 10 Pro est par exemple plus puissant, donc ça va vraiment dépendre des moyens. Donc voilà, pour résumer, 200€ Redmi Note 10, 250€ Redmi Note 10 Pro et 300€ Realme 8 Pro. Là, vous avez certainement la meilleure offre sur l'entrée de gamme.
C'est des téléphones de cette année, ça ou est-ce que Xiaomi fait un peu comme Apple, par exemple, baisse les prix de ces téléphones qui sont sortis l'année d'avant, par exemple?
C'est pas du tout le genre de Xiaomi. Xiaomi lance des nouveaux produits tous les deux mois et ils annulent les anciens. C'est... Pour les deux cas, Realme et Xiaomi, ce sont des appareils qui ont été annoncés il y a un ou deux mois. Mmh. Ça date, je crois, de mars.
Très bien. Donc là, on a vu le segment 200€, 300€, et on monte un petit peu en gamme. 400€, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, c'est pas un tarif que tu identifies. Hein. Mmh. En revanche, à partir de 500, là... on a évidemment ta sélection et c'est le Google, le Pixel.
C'est Google qui gagne sur cette sélection. Déjà, pourquoi on n'a rien sur 400€? Parce qu'en fait, à 300€, vous avez des choses aussi bonnes qu'à 400€. Le segment 300-400 se ressemble énormément, donc autant prendre celui à 300€ qui, en plus, selon moi, est meilleur.
C'est étonnant, hein, les constructeurs pourraient justement essayer de se positionner avec un smartphone... un peu particulier aux alentours des 400€, non?
Je pense qu'il y a des études de marché aussi qui disent ça, qui disent que les gens se disent « je veux un téléphone à 300€ » ou « j'ai un budget de 500€ », donc ils ne vont pas trop sur segment. Samsung y est avec les Galaxy A, le Galaxy A52, je ne l'ai pas encore testé, c'est aussi pour ça qu'il n'est pas dans ce classement, mais généralement, il est quand même inférieur au téléphone chinois. Mais c'est vrai que le 400€ est assez oublié par les constructeurs aujourd'hui.
D'accord, donc le Google Pixel 4a 5G,
oui,
sorti à la rentrée dernière.
Tout à fait. Qui coûte 499€ et qui est pour moi l'appareil que je vous recommande si vous avez un budget de 500€, là aussi sans la moindre hésitation. Il est un peu dur à trouver quand même parce que Google a toujours un petit peu des difficultés à fabriquer des produits. Mais là, en fait, vous avez l'équivalent du Pixel 5 avec un dos en plastique et c'est à peu près la seule différence. Vous perdez la recharge sans fil aussi, mais sinon, c'est le même processeur, le même appareil photo, à peu près le même écran, c'est du 60Hz au lieu de 90Hz. Vous avez de la compatibilité 5G. C'est assez impressionnant cet appareil parce que un, il est extrêmement réactif. Deux, il aura plein de mises à jour. Trois, en photo, c'est certainement le meilleur du marché. Il a un rendu logiciel qui est juste bluffant. Donc franchement, ma recommandation, là, elle est totale sur ce produit. C'est un gros coup de cœur. Et petit bonus, contrairement au précédent Pixel qui n'était pas très endurant, celui-là, il tient deux jours facilement, voire plus. Le Pixel 4 à 5G, c'est une vraie réussite. J'ai un peu l'impression que Google, ils ont de la chance parfois et d'autres fois, ils se ratent. J'ai un peu peur qu'on reparte sur un flop dans les mois qui viennent. Mais en tout cas, la génération 2020, elle est très, très bonne.
D'accord. Le Google Pixel 4a 5G. Il y a le 5 aussi qui est sorti. Donc, c'est vrai, ce que tu disais, c'est simplement un peu la finition et la charge rapide.
C'est du métal, de la charge sans fil et un écran 90Hz.
Et il coûte 100€ de plus, non ?
129€ de plus et 629€. Franchement, à moins d'être un gros fan de nouvelles technologies, qui a envie d'avoir le dernier Pixel haut de gamme, il n'y a aucune raison d'aller sur le Pixel 5 aujourd'hui. Le Pixel 4a 5G le surpasse allègrement.
Côté photo, tu disais que c'était le meilleur smartphone du moment. Tu confirmes ?
Alors, c'est le meilleur pour le grand public, j'ai envie de dire. On peut toujours titiller en disant « Oui, mais bon, son capteur est moins grand, il fait entrer moins de lumière, il y a moins d'alternatives, il n'y a pas de zoom optique. » C'est vrai, il y a des téléphones extrêmement plus complet. Maintenant, pour monsieur, madame, tout le monde qui prend un téléphone, qui prend une photo et qui la regarde après, bah c'est lui qui fait les plus belles photos. Parce qu'ils ont les parfaits rendus, ils savent reproduire le mode portrait à la perfection, l'ultra grand angle, il n'est pas trop déformé. Franchement, c'est dur de faire mieux Google. On en a déjà parlé des pixels, mais vous savez, c'est ces téléphones qui ont la particularité. Quand vous prenez la photo, c'est pas très beau. Quand vous appuyez sur enregistrer et regardez la photo, c'est magnifique. Parce qu'en fait, il y a un traitement logiciel derrière qui est dû grâce à des millions et des millions d'analyses de Google en termes d'intelligence artificielle et en termes de rendement des photos.
C'est-à-dire qu'il se sert en fait de toute l'historique, de toute la data qu'il a sur les milliards de photos que, en fait, on remonte. Hein. Alors, tout évidemment, tout ça est anonymisé. Hein. Enfin, j'espère, j'imagine. Et donc, va tirer la quintessence de toute cette data pour l'appliquer sur la photo qu'on vient de prendre.
Exactement. Et du coup, ça rend quelque chose de vraiment magnifique. Et notamment sur le mode portrait, rien de plus beau qu'un pixel, selon moi. D'autant plus qu'après, on peut changer l'angle du portrait, on peut changer la mise au point a posteriori. Enfin, c'est assez bluffant, en fait, tout ce qui arrive à faire un pixel. C'est à peu près similaire à ce que font d'autres constructeurs aujourd'hui, mais il prend plusieurs photos simultanément pour arriver à ce mix, ce qui vous permet après, en fait, de changer la photo vous-même, si vous souhaitez, grâce à ce qu'il a pu enregistrer ailleurs.
Voilà, et comme tu le disais, c'est le premier smartphone de ta sélection à avoir la 5G, hein, et on est donc à 499 €.
C'est ça.
Voilà, il y a des promos des fois chez Google ou pas ?
En fait, oui, il peut y en avoir. Généralement, c'est des produits offerts avec. Il y avait un casque Bose offert à un moment si vous achetiez un Pixel.
Ça, c'était un super cadeau. Hein.
Ce qui était un super, une super offre. Ce qu'il y a à prendre en compte chez Google, c'est que le stock est tellement limité et ils ont ils ont peur, en fait, j'ai l'impression, Google, de se rater sur le marché du smartphone. Donc, ils vont vraiment à reculons, qu'ils n'ont pas ce besoin d'écouler les stocks que les autres ont.
Et puis, ça représente une infime partie du business de Google, hein, tout ça. Hein.
On
a l'impression qu'ils sont là simplement pour faire de la figuration. Alors, c'est leur image qui est mise en jeu. C'est pour ça qu'ils font attention quand même à ce qu'ils font. Mais on a plein l'impression qu'ils veulent vraiment concurrencer les Samsung ou les...
C'est étonnant parce qu'aux États-Unis, ils ont l'air d'avoir un discours de « on veut concurrencer
». Plutôt conquérant.
Mais en Europe, ils sont extrêmement lents. Donc, je pense que c'est aussi une manière de penser très, très californienne qui est de ne jamais se précipiter. Et c'est l'opposé de ce que fait la Chine qui va incendier le marché et qui a une arrogance et une croyance en ses produits assez impressionnante.
Avec le bulldozer.
C'est exactement ça. Alors que les États-Unis, ça a toujours été un petit peu plus travaillé, un petit peu plus réfléchi. Mais bon, Pixel 4 à 5G est un super produit.
Bon, en revanche, là maintenant, on est, j'allais dire, presque open bar, hein, les trois smartphones, les meilleurs du moment. La sélection donc de 01net et de Nicolas, le top 3 haut de gamme. Donc là, bien sûr, on dépasse bien évidemment tous les budgets qu'on a évoqués.
Oui.
On est, j'imagine, au-delà de 1000 euros.
On est au-delà de 1000 euros pour les trois produits.
Pour les trois, d'accord. Donc on se rend compte quand même que, voilà, c'est un gap important, hein. Là, on était à 500 avec le Google Pixel 4 à 5G. Là, on dépasse 1000 euros. Et alors, l'iPhone 12 Pro Max, là, c'est...
C'est sûr que c'est assez cher. Rapidement, un intermédiaire au milieu, il y a le Oppo Find X3 Neo que j'avais oublié de citer, qui coûte 800 euros et qui est un super produit. Mon test arrivera dans quelques jours sur 01net, donc on aura l'occasion d'en parler. Mais,
le Find X3 Neo.
Find X3 Neo, au milieu du coup de ces 500 et de ces ultra haut de gamme, qui est un excellent appareil. Sur le top 3 haut de gamme, une précision importante, le top 3 que je vais vous donner n'est pas forcément un top 3 coup de cœur, mais un top 3 basé sur les notes du laboratoire de 01net. C'est le vrai top 3, les trois appareils qu'on a mesurés qui sont les meilleurs. Bon, il se trouve que je suis absolument d'accord avec ce classement, mais...
Donc c'est rassurant.
Mais disons que pour le coup, je veux vous assurer qu'on ne vous donne pas trois téléphones au hasard. C'est vraiment des mesures qui correspondent à la réalité. Le numéro 3, c'est l'iPhone 12 Pro Max. Donc, qui, comme l'année dernière chez Apple, dispose d'une excellente autonomie. C'est la deuxième fois donc, d'affilée qu'Apple réussit à se surpasser et à gommer ce défaut qui a fait son caractère les années précédentes. Vous avez le nouveau design qui est, vous savez, un peu plus rectangulaire, qui a inspiré des iPhone 5. Vous avez un excellent écran OLED, un des meilleurs du marché, même si Samsung est un petit peu devant aujourd'hui quand même. Au niveau de l'appareil photo, c'est très polyvalent. Vous avez un zoom x2,5, vous avez de l'ultra grand angle de qualité. Vous avez un capteur principal qui s'est vraiment amélioré par rapport à une époque où Apple était distancé par la concurrence. Bref, vous avez le top du top. Et surtout, disons qu'on peut toujours batailler sur « oui, mais Apple, c'est nul. Apple, ils ont moins de RAM. Apple, ils ont machin. » Les gens qui achètent un iPhone, ils s'en foutent de l'univers Android. Oui, et les gens qui sont pour Android, ils s'en foutent de l'iPhone. Donc ça sert à rien de se battre. Il a son public et son public n'ira pas ailleurs.
Après, il y a des gens qui switchent. Hein. Il y en a qui passent d'un univers à l'autre.
Oui, mais ça reste minime.
Ça reste à la marge, bien sûr. Et puis, c'est la fluidité. C'est iOS. C'est l'écosystème.
C'est l'écosystème Apple. C'est l'Apple Watch. C'est AirPlay. C'est l'Apple TV. C'est plein de choses qui ne sont pas trouvables ailleurs.
Mais cela dit, l'iPhone 12 Pro Max, qui est le top du top et qui est sans doute le smartphone le plus cher de ta sélection, n'arrive que troisième.
Il arrive que troisième, en effet, parce qu'il y a un petit peu mieux dans l'univers Android, qui pour le coup joue la carte des specs. Figure-toi qu'il n'est pas le plus cher de la sélection, parce qu'il y a le S21 Ultra qui coûte le même prix. Mais on va en parler dans quelques instants. Du coup, je vous ai spoilé le nom du premier.
Ah oui, là, ça y est.
Mais nous allons parler du deuxième.
On sait qui meurt à la fin, là.
On sait qui meurt à la fin. Bon, les gens pouvaient s'en douter. Ouais, hein, c'est quand même un appareil qui a été salué par la critique du monde entier, donc on le sait. On passe d'abord au numéro 2, le Oppo Find X3 Pro. Là, ce qui est fort, c'est que pour la deuxième année consécutive, Oppo nous impressionne. Ils ont très mal commencé en France. Je l'ai souvent dit que pour moi, c'était le lancement comment rater son arrivée dans un marché pour les nuls. Ben voilà, Oppo. Ils ont voulu jouer la carte du super élève chinois arrogant qui était censé tout tuer, mais qui avait des produits qui n'étaient pas forcément excellents.
Ils n'étaient pas prêts aussi.
Ils ont sorti un produit chinois en Europe avec la surcouche chinoise, avec des erreurs de traduction, avec aucune étude de marché sur ce que la France voulait.
Ils avaient loué le Louvre, je me souviens.
Ils avaient loué le Louvre, en effet.
Mais c'était une conférence de presse incroyable. Enfin voilà, c'était complètement...
C'était très original. Ils avaient des bons produits, mais ils étaient loin d'être au niveau. Depuis l'année dernière, le Find X2 Pro, ils sont vraiment montés en gamme. Et cette année, ils confirment complètement qu'ils sont rentrés dans un nouvel univers avec un appareil qui est quasiment parfait. Vous avez pour moi le meilleur design sur les smartphones haut de gamme. C'est juste magnifique. Le rendu est super bon. La manière dont l'appareil photo dépasse sans trop dépasser, bah, quand vous l'avez en main, bah, ça change tout par rapport à un smartphone. Une module caméra est posée par-dessus le dos. L'écran, c'est de technologie LTPO. C'est un des trois téléphones du marché aujourd'hui qui dispose de cette technologie. C'est une nouvelle norme qui permet en fait de basculer la définition ou le taux de rafraîchissement automatiquement sans consommer de batterie. Donc du coup, vous passez de 10 à 120 Hz sur cet appareil en fonction de ce que vous faites et ça permet de ne pas trop consommer en énergie et d'avoir une super qualité en permanence. L'appareil photo aussi, bah, Oppo est devenu super bon de jour, de nuit, l'ultra grand angle. Il n'y a pas de zoom télescopique, c'est périscopique, pardon. C'est un petit peu dommage parce que c'était un des points forts du modèle précédent.
Il faisait un bon x10.
Exact, ça monte à x10.
Le Huawei le 3, le Pro.
Oui, le P30 Pro. Ça reste extrêmement compétitif. Et évidemment, le petit plus qui fait qu'Oppo est Oppo, la recharge ultra rapide en 40 minutes sur cet appareil, c'est du 65 watts. La recharge sans fil aussi, pour vous dire à quel point c'est complet, ce n'est pas le cas des précédents Oppo. Bref, si vous ne voulez pas faire comme tout le monde, parce que Oppo n'est pas encore suffisamment connu pour vendre des milliers et des milliers de smartphones haut de gamme, le Find X3 Pro, qui coûte quand même 1 200 €, précisons-le, c'est un excellent appareil.
Et puis donc, Samsung, qu'on n'avait pas cité depuis le début de ce classement, eh bien se rattrape, puisque c'est le numéro 1 de la sélection de 01net actuellement. Hein.
Ouais, c'est un peu dommage avec Samsung, c'est généralement la gamme Galaxy A, même si elle commence à s'améliorer, elle est un petit peu distancée par rapport avec les constructeurs chinois, mais sur le haut de gamme, ça reste la valeur sûre. Le Galaxy S21 Ultra, il sait tout faire.
Donc c'est le top du top. Hein.
C'est le top du top, il fait tout bien. C'est-à-dire que le Galaxy S20 Ultra, il allait peut-être un petit peu trop loin et il le faisait mal, du coup c'était moyen, c'était un bon produit, mais qui en même temps n'était pas le meilleur.
Là, le problème de batterie, de chauffe.
Problème de batterie, c'est clair. Là, le S21 Ultra, il n'a pas la meilleure batterie du monde. Hein. Mais bon, il tient la journée. C'est ce qu'on lui demande en quelque sorte. Il a un très grand écran OLED qui, lui aussi, est LTPO, qui offre la meilleure luminosité du marché. On dépasse les 1000 candélas par mètre carré. C'est une première pour le laboratoire de 01net, donc c'est vraiment excellent. L'appareil photo, bah là, on retrouve un grand angle de 108 mégapixels, qui est super bon, contrairement à son prédécesseur. Un très bon ultra grand angle aussi. Et surtout, un zoom x10. Donc, c'est pas un zoom. Huawei, c'était un x5 avec un x10 hybride. Samsung, c'est un vrai x10.
D'accord.
Donc, du coup.
On zoome en x10, on est en optique et on a une qualité nickel.
On a une qualité parfaite. On peut techniquement monter à x100 en numérique. Je vous recommande pas de le faire. C'est pas très beau. Jusqu'en x30, ça reste quand même honorable. C'est l'appareil vraiment le plus complet du marché. Il n'y a peut-être pas de recharge ultra rapide, mais bon, il y a de la recharge sans fil. Les performances sont très bonnes. Le design, bah, vous le voyez, on avait testé la version noir mat. Bah, c'est quand même extrêmement bien réalisé par rapport au prédécesseur qui avait un gros module caméra et un dos brillant qui n'était pas très beau. Là, c'est très beau. Hein, le téléphone est réussi. Bref, celui qui aime les smartphones haut de gamme, qui veut le top du top, qui veut toutes les dernières caractéristiques du moment, notamment le Wi-Fi 6, c'est le seul appareil avec le Wi-Fi 6E pour l'instant, avec le Asus, mais bon, le Asus, ça reste un truc de jeu vidéo, donc c'est pas non plus très grand public. Donc, franchement, le S21 Ultra mérite facilement sa place de numéro 1.
Aujourd'hui, il est compatible avec le stylet.
Compatible avec le stylet S Pen des Galaxy Note aussi. Voilà, Samsung prévoyait depuis quelques temps déjà d'abandonner les Galaxy Note, donc c'est pour ça qu'ils l'ont donné cette compatibilité.
Eh bien, voilà, avec ça, vous faites votre choix. Je pense que vous avez l'une des meilleures sélections du moment avec Nicolas Lelouch. Merci beaucoup, Nicolas.
Merci, François.
Voilà, et vous pouvez retrouver les détails de tous ces tests sur zeronet.com, bien évidemment. De quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. On sera là, bien sûr, le week-end prochain, à la fois sur BFM Business le dimanche, à la radio, à la télé, sur 01 TV, sur la chaîne YouTube et sur zeronet.com, bien sûr. On est partout. À très vite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.